Radio Okapi.
Le journal, présenté par Noëlla Luzi Tukabambi.
La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC a atteint des proportions alarmantes. Propos de la première ministre congolaise hier à la 58e session du Conseil des droits de l'homme qui se tient à Genève en Suisse du 24 février au 4 avril. François Rubota, ancien ministre du Développement Rural, condamné à 3 ans de prison pour conflit d'intérêts, acquittement de l'opérateur économique Mike Kasenga, représentant du consortium CVR Construct SRL. Le verdict de la Cour de cassation est tombé hier à Kinshasa dans le procès de forage d'eau débuté le 11 novembre 2024. Jacquemin Chabanier, l'invité de ce journal, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, va s'exprimer sur les questions sécuritaires dans l'est de la RDC. Bonjour à tous. D'abord ces nouvelles. Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, et Haile Mariam Desalegn Boshé, ancien premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, viennent d'être nommés facilitateurs des processus fusionnés de Luanda et de Nairobi pour la paix dans l'est de la RDC. Selon un communiqué conjoint de l'EAC et de la SADC publié ce lundi, ces nominations sont intervenues après consultation des chefs d'État et de gouvernement de ces deux organisations régionales. Les facilitateurs auront notamment pour mission de superviser la mise en œuvre du cessez-le-feu, de coordonner l'aide humanitaire et d'accompagner les discussions entre les différentes parties prenantes en vue d'une solution durable dans l'est du pays. Et puis, une réunion conjointe des chefs d'état-major de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, consacrée à la crise dans l'Est de la RDC, a été organisée hier à Dar es Salaam, en Tanzanie. Cette réunion a été convoquée sur instruction des chefs d'État de l'EAC et de la SADC afin de fournir des orientations techniques susceptibles de faciliter la coordination des actions de deux blocs régionaux pour faire face à la situation actuelle dans la partie orientale de la RDC. D'après le communiqué conjoint publié par deux organisations régionales, tous les acteurs sont invités à respecter le cessez-le-feu annoncé par le sommet EAC-SADC. Le 1-23 et tous les autres acteurs sont invités à cesser toute nouvelle avancée dans l'est de la RDC et à observer et respecter un cessez-le-feu immédiat, peut-on lire dans ce document. Mais malgré tous ces multiples appels à la cessation des hostilités, les combats se poursuivent entre les FARDC et le 1-23 appuyé par l'armée rwandaise. Une réunion ministérielle conjointe EAC-SADC est prévue aussi le 28 février courant. Elle devra porter sur les détails de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Notez aussi que le procureur de la Cour pénale internationale CPI est arrivé hier soir à Kinshasa. À son arrivée à l'aéroport international de Ndjili, Karim Khan a, devant la presse, réaffirmé l'engagement de son bureau à enquêter sur les crimes commis dans l'est de la RDC. Nous sommes très inquiets de ce qui se passe en RDC. Des milliers de personnes sont mortes, des milliers sont blessées. Le message doit passer clairement. Tout groupe armé, toute force armée, tous les alliés des groupes armés et des forces armées n'ont pas un chèque en blanc. Ils doivent se conformer aux lois internationales. La loi doit être effective, a-t-il dit. Pour Karim Khan, la crise dans l'est de la RDC ne doit pas être négligée. Il a rappelé aussi que, je cite, « Personne ne peut blesser ou tuer les gens. Les populations de la RDC sont aussi précieuses que les autres populations à travers le monde. » Le procureur général de la Cour pénale internationale devra rencontrer le chef de l'État congolais et d'autres représentants du gouvernement, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, les victimes et les partenaires de la société civile. Depuis Genève, la première ministre congolaise a affirmé hier lundi que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC a atteint des proportions alarmantes. C'est pour cela que, selon Judith Souminois, la RDC continue à exiger des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et aussi de protéger les populations vivantes à Goma, Bukavu et les localités sous occupation. Judith Souminois prend part à la 58e session du Conseil des droits de l'homme qui se tient à Genève en Suisse du 24 février au 4 avril. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Hung.
Selon les chiffres du ministère de la Santé, depuis le mois de janvier 2025, le conflit a provoqué, entre autres, la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. Plus de 215 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de Mpox non pris en charge avec risque d'expansion. La destruction de plus de 90 sites d'accueil des déplacés internes, des attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires. Plus de 450 000 personnes, selon l'ONU, sont sans abri, nourriture et eau. Plus de 27 millions sont en besoin d'assistance humanitaire et plus de 2,8 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo et particulièrement à l'Est. Il m'est impossible de vous décrire les cris et les larmes de millions de victimes de ce conflit. Femmes, filles violées, enfants en relais de force, déplacés et orphelins. En outre, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les artistes, témoins de cette tragédie à l'Est, n'ont pas le droit de la raconter.
Dans son discours à l'ouverture de cette 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies a lui aussi pris la parole à propos de la RDC. Antonio Guterres affirme qu'il est temps de faire taire les armes. L'heure est à la diplomatie et au dialogue en RDC. Plus de détails avec vous, Alain Irung.
En République démocratique du Congo, nous sommes témoins d'un tourbillon mortel de violence et d'atroces violations des droits humains, amplifiées par la récente offensive du M23 soutenue par les forces de défense rwandaises. Plus les villes tombent, plus le risque d'une guerre régionale augmente, a alerté Antonio Guterres. Selon lui, le récent sommet conjoint qui s'est tenu en Tanzanie a ouvert la voie en renouvelant l'appel à un cessez-le-feu immédiat. Il rappelle que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées et que le peuple congolais mérite la paix. L'ambassadeur Jörg Lobert, représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et président de la session, a regretté la commission de graves violations des droits humains, citant en exemple la situation dans l'Est de la RDC. Face au constat alarmant des atrocités qui y sont commises et rapportées, il a invité le Conseil à veiller à ce que les mots se traduisent en action, non sans s'interroger sur l'efficacité des mesures prises jusqu'alors.
Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, quant à elle, réaffirme les fermes attentes de la RDC à voir la résolution 2773 inverser les tendances quant à la considération de toute l'opinion face à cette crise dans la partie est de la RDC. Une résolution qui condamne le groupe terroriste M23 et les forces de défense rwandaises. Dans un communiqué de presse du 24 février, hier donc, Kayikwamba-Wagner réitère l'appel urgent à la communauté internationale pour notamment l'extension et l'intensification des sanctions contre le Rwanda et le M23, l'imposition d'un embargo immédiat sur les minerais illicites exportés depuis le Rwanda, la suspension de la participation du Rwanda aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Billy Van Lutumba nous en dit plus.
La ministre des Affaires étrangères congolaise explique que cette résolution adoptée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies est juridiquement contraignante pour tous les États membres et s'impose à l'ensemble des mécanismes régionaux et sous-régionaux impliqués dans la résolution du conflit. Elle apporte enfin une clarification sans équivoque, transformant des engagements souvent restés imprécis en obligations claires et contraignantes. Kayikwamba souligne qu'il ne peut plus y avoir d'ambiguïté. Cette résolution fixe un cadre indiscutable pour guider les efforts régionaux et internationaux vers une paix durable en RDC. La chef de la diplomatie congolaise tient à préciser que la résolution 2773 n'est pas une ingérence étrangère, mais l'expression du cadre légal universellement reconnu pour faire face aux menaces pesant sur la paix mondiale. Elle incarne un devoir collectif des Nations Unies pour mettre fin aux violations du droit international en RDC et garantir le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, mentionne-t-elle. Pour la ministre, la communauté internationale doit désormais agir avec fermeté pour garantir l'application de cette décision juridiquement contraignante.
L'Union européenne, de son côté, annonce une série de mesures en réaction à l'implication des troupes rwandaises aux côtés du M23 dans l'est de la RDC. La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, annonce notamment la suspension des consultations en matière de défense avec Kigali, la possibilité d'appliquer des sanctions en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, l'appel au retrait des forces rwandaises et le réexamen du protocole d'accord sur les matières premières critiques. Je vous propose d'écouter Kaja Kallas dans cet extrait sélectionné par Poly Muzalia.
La situation est très grave et risque de dégénérer en conflit régional. L'intégrité territoriale n'est pas négociable en RDC tout comme en Ukraine. La charte des Nations Unies s'applique de la même manière partout. C'est pourquoi nous soutenons le processus de paix de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à des résultats par des moyens diplomatiques. Mais nous prenons également plusieurs mesures. Ainsi, tout d'abord, les consultations sur les questions de défense avec le Rwanda ont été suspendues. Il y a également une décision politique d'appliquer des sanctions en fonction de la situation sur le terrain. Nous avons demandé au Rwanda de retirer ses troupes du territoire de la RDC. Enfin, le protocole d'accord avec le Rwanda concernant les matières premières critiques sera réexaminé.
Will be under a review.
Pendant ce temps, sur le terrain au Nord Kivu, le M23 intensifie sa pression vers le grand nord de la province depuis environ une semaine. Cette pression survient quelques mois après la prise des cités stratégiques de Kanyabayonga, Kaina, Kirumba et depuis 5 jours de la localité de Kipese dans le territoire de Lubero. Ces offensives aggravent une situation sécuritaire et humanitaire déjà fragile dans cette région sensible, incluant les villes de Beni et Butembo, ainsi que les territoires de Beni et Lubero. Déjà meurtris par plus d'une décennie de violence, cette partie du Nord Kivu se retrouve désormais prise en étau entre deux menaces, le M23 au sud et les ADF au nord. Explication avec vous, Martial Papimukeba.
Dans les territoires de Beni, les attaques des ADF ciblent régulièrement Mavivi, Mbau, Owicha, Eringeti et Kainama. Ces violences forcent souvent les habitants, principalement des agriculteurs, à fuir leurs champs, aggravant la crise alimentaire. Sur la route Owicha-Luna, axe vital relié à Beni et Butembo à l'Ituri, les embuscades meurtrières des ADF restent un défi. Véhicules incendiés, conducteurs tués, ce couloir économique clé est paralysé. À l'ouest, la route Mangina-Mandima, souvent utilisée comme déviation vers l'Ituri, est également une zone à haut risque, régulièrement frappée par des attaques similaires. Au sud, les cités de Kanyabayonga, Kaina, Kirumba et Kipese sont sous l'occupation du M23 dans les territoires de Lubero, touchés également par les attaques des ADF. Cette double pression exercée par des rébellions plonge la région dans une insécurité grave. Les organisations humanitaires peine à intervenir efficacement en raison des défis d'accès sécuritaire, aggravant ainsi la détresse des communautés affectées.
À Kinshasa, le patron de la police dénonce la résurgence du phénomène Bureau 2 pour terroriser les civils. Le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba l'a dit au cours d'une parade de la police organisée hier devant le Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Il n'y a pas longtemps, nous avons interdit le mouvement Bureau 2 à Kinshasa, mais aujourd'hui ce phénomène a repris. Il y a des agents de l'ordre qui ont profité de la psychose de la guerre dans l'est du pays pour terroriser la population ici. Tout ça pour faire croire à l'opinion que le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, a déclaré le commandant de la police de Kinshasa. Acquittement pur et simple de l'opérateur économique Mike Kasenga hier lundi et condamnation par la même occasion de François Rubota, ancien ministre du Développement Rural, à 3 ans de prison pour conflit d'intérêts. Le verdict de la Cour de cassation est tombé dans le procès de forage d'eau débuté le 11 novembre 2024 et dont le verdict était attendu depuis le 22 janvier dernier. Représentant du consortium CVR Construct SRL, Mike Kasenga n'a pas été reconnu coupable d'un quelconque détournement d'argent. Il a été donc renvoyé de fin de poursuite car n'était pas un agent de l'État selon l'arrêt de la Cour. Explication du motif de cet acquittement avec son avocat ancien bâtonnier de la province du Kwilu, Laurent Kalengi. Il est joint par Jeff Ngoy.
Je venais de lire, non pas la motivation, mais j'ai lu au moins le dispositif. La Cour de cassation, la haute cour, disons, a disqualifié l'infraction de détournement à charge de mon client en infraction d'abus de confiance. Ce qui fait que, constatant les éléments de l'infraction d'abus de confiance qui n'étaient pas réunis, la Cour a dit le bon droit en acquittant mon client, pour qui je suis en train de faire les formalités d'usage pour aller le chercher au centre de rééducation de Makala que vous connaissez très bien, c'est-à-dire la prison de Makala.
Actualité internationale.
Le parquet a requis lundi 20 ans de prison ferme contre l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, jugé depuis novembre en appel à Nouakchott pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une fortune immense. Le procureur général de la cour d'appel Sidi Mohamed Houdidi Ould Moulay a reproché à l'ex-chef d'État d'avoir mis à profit sa fonction pour des intérêts personnels. Monsieur Aziz a transformé la présidence en bureau pour exercer le chantage sur les investisseurs, a-t-il dit dans son réquisitoire en arabe.
L'invité.
L'invité de ce journal est Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Il s'exprime sur les questions sécuritaires dans l'Est de la RDC, entre autres les informations relatives au recrutement forcé des enfants, des femmes et des jeunes dans la rébellion, ainsi que des policiers de Bukavu amenés à Goma dans des centres pour une formation idéologique. Jacquemain Chabani s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Messieurs les vice-premiers ministres, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi.
On a suivi sur les réseaux sociaux une vidéo qui appelle à s'attaquer au Swahilifone. Alors, quelle est votre réaction à ce message appelant à s'attaquer au Baswahili?
Bon, d'abord, je dois vous informer vos auditeurs. Et les réseaux sociaux ne sont pas des sources officielles. Les réseaux sociaux aujourd'hui font l'objet de beaucoup de désinformations, ce qu'on appelle fake news. Il y a beaucoup d'émissions qui informent l'opinion sur les méfaits des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, avec la guerre d'agression et les territoires qui sont occupés par l'armée rwandaise, là où nos populations vivent le calvaire, nous sommes victimes de ces attaques de l'armée numérique du Rwanda qui veut diviser les Congolais entre eux. Je crois que nous tous, nous vivons dans ce pays depuis des années. Nous savons que nous sommes une nation unifiée avec la multitude de ces groupes ethniques. Cette question-là n'est pas une réalité en République démocratique du Congo, mais malheureusement, principalement à travers les réseaux sociaux, on veut faire croire que c'est une réalité. Je peux rassurer nos concitoyens qu'en termes de statistiques, au-delà des informations et vidéos qui circulent, d'ailleurs même des vieilles vidéos qu'on sort des fois de leur contexte, il n'y a pas de cas et de statistiques qui peuvent démontrer qu'il y a une quelconque crainte d'une difficulté des Swahilifones vivant à Kinshasa ou en dehors de leur espace naturel. C'est un gros mensonge. J'ai eu au ministère de l'Intérieur à recevoir la communauté Banyamulenge. Nous avons échangé avec eux sur cette situation-là. Ils avaient effectivement 5 cas qui nous ont transmis et que nous avons suivi sur toute l'étendue de la République. J'ai reçu aussi le caucus des élus du Nord Kivu qui, sur base des messages relayés dans les réseaux sociaux, étaient venus partager avec le ministère de l'Intérieur. Nous les avons rassurés. Donc, les Swahili vivent par exemple dans la ville de Kinshasa, dans toutes les communes. Il n'y a que cette inquiétude d'une psychose qui veut être mise en place à travers les réseaux sociaux et c'est l'arme des ennemis de la République.
Dites-nous, messieurs les vice-premiers ministres, comment vous réagissez à ces informations relatives au recrutement forcé d'enfants, de femmes et de jeunes dans la rébellion?
Effectivement, le gouvernement de la République a signé un communiqué hier qui relevait toutes ces violations de droits de l'homme, toutes ces violations contre tout le dispositif, l'arsenal juridique international auquel la République démocratique a ratifié. Nous sommes en train de documenter tous ces actes d'exaction, de tuerie ciblée que sont en train de subir nos populations. Nous sommes convaincus que dans un avenir très proche, nous allons rétablir justice et les droits de toutes nos populations. Elles sont victimes de déplacements forcés, elles sont victimes de séquestration. Nous avons nos vaillants phares d'essai qui se retrouvent encore jusqu'à présent dans les enceintes de la MONUSCO, auxquelles le Rwanda et son supplétif M23 ne veulent pas appliquer les conventions internationales sur les hommes en uniforme qui ont déposé les armes. Ils sont séquestrés de même que le personnel des Nations Unies. Tout ça sont des violations très graves à charge du Rwanda de M. Paul.
Quelle démarche le gouvernement mène pour dénoncer toutes ces pratiques dont vous venez d'énumérer?
Nous avons un certain nombre de dispositifs. Actuellement, son Excellence Madame la Première Ministre se retrouve à Genève où elle est allée dans des activités du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies pour présenter et défendre toutes ces violations dont est victime le peuple et la nation congolaise. Nous avons aussi un collectif d'avocats est en activité dans les les différentes juridictions internationales. Donc ça, c'est sur le volet diplomatique.
Des policiers de Bukavu amenés dans des centres à Goma pour une formation idéologique. Comment réagissez-vous à cela?
C'est une très grave violation des conventions de Genève relatives au traitement des prisonniers de grève. Voilà qu'un groupe de terroristes et un pays agresseur se permet de séquestrer, de kidnapper des citoyens, des hommes qui sont sous les drapeaux en voulant les amener dans un camp de concentration pour les endoctriner idéologiquement en espérant pouvoir les retourner contre leur nation. C'est extrêmement grave. Nous sommes convaincus que toutes les pressions qui sont faites feront en sorte à ce que cette initiative soit un échec total.
Jacquemin Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, je vous dis merci beaucoup.
Je vous remercie.